Je vous rappelle qu'on est dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie, c'est ce livre qui parle notamment de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais si le livre ne parlait, l'objet du livre n'était que la reconstruction des murailles de Jérusalem, alors le livre devrait s'arrêter au chapitre 6 et au verset 15, comme on l'a vu la semaine dernière. Les murailles ont été achevées, et c'est tout. Et c'est fini. Mais là, on est au chapitre 6, et il y a encore huit chapitres. Incroyable. Ce n'est que le début du livre. Ce n'est que le début de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Jérusalem avait été détruite, et le peuple avait été conduit en captivité à Babylone, parce qu'Israël avait oublié son Dieu, et parce qu'il s'était tourné vers d'autres dieux qui n'en sont pas. Maintenant, le peuple, il est revenu à Jérusalem. Maintenant même, il possède de belles murailles. Mais s'il ne vit pas une relation personnelle avec son Dieu, alors il est toujours aussi mort. Et il court toujours le même danger. Vous savez, quand on s'occupe des migrants, ou quand on s'occupe des personnes victimes de la traite humaine, on s'efforce de leur donner un toit, on s'efforce de leur donner des papiers, des vêtements, de la nourriture, on s'efforce de leur enseigner le français. Au fond, on est en train de reconstruire la muraille de leur vie, pour les protéger, pour leur redonner un peu de sécurité, de dignité. Mais si ces personnes ne saisissent pas l'Évangile et le salut offert par Jésus-Christ, si elles ne développent pas une relation personnelle avec Dieu, je dis que leur état n'est pas véritablement meilleur. Je veux dire par là que si ces personnes meurent sans Dieu, elles sont aussi misérables que celles qui sont restées sur le trottoir. Combien de nos concitoyens possèdent une magnifique muraille, si je peux dire? Un beau travail, une belle maison, une belle famille. Mais combien demeurent morts spirituellement? On peut même fréquenter une église, on peut grandir dans une famille chrétienne, connaître des choses sur Dieu, et pourtant être mort spirituellement, tout autant que les personnes du dehors. Néhémie ne se leurre pas. La muraille n'est pas un but en soi. L'objectif, c'est le peuple. C'est le peuple qui était complètement dans la désolation, qui était humilié, qui était dans l'opprobre, qui vivait dans la crainte. Et le chapitre 7, il nous montre tout l'intérêt que Dieu et que Néhémie a pour le peuple. Chapitre 7, c'est toute une liste de dons. Mes collègues ont évité ça, ils savent que je suis dyslexique. J'aurais eu du mal à lire tout ça. Mais ça parle, il mentionne tout un tas de personnes. Et ils sont dénombrés. 42 000 et quelques personnes. Et tout l'intérêt commence à se porter sur les gens, sur ces personnes maintenant. Ce qui préoccupe Néhémie, ce sont les gens. C'est leur état spirituel. C'est qu'ils soient connectés avec Dieu. Et le moyen par lequel nous sommes connectés avec Dieu, le moyen par lequel Dieu se révèle aux hommes, c'est sa parole. On va voir ce matin que la parole, elle est source de joie. On va voir la joie de lire et d'écouter les Écritures. On verra ensuite la joie de comprendre les Écritures. Et puis enfin la joie de mettre en pratique les Écritures. Regardons la joie de lire et d'écouter les Écritures. Chaque fois que les hommes découvrent la Bible, ou connaissent un renouveau dans sa lecture, alors Dieu est reconnu pour vrai. Il est cru, il est aimé, il est suivi. Et les hommes connaissent une grande joie. Vous avez remarqué que dans tout ce passage, c'est rempli de joie. Il y a une fête de 7 jours. Ils sont en train de pleurer. Mais non, pleurez pas. Maintenant, c'est pour la joie. On est là pour se réjouir. Dieu a choisi de se révéler par sa parole. Et les gens qui le connaissent, lise, écoute sa parole. Ne cherchez pas une nouvelle méthode. Tous les réveils religieux ont commencé par un appétit pour la parole de Dieu. L'élément déclencheur de la réforme du XVIe siècle, c'est la Bible. Autrefois, elle était enchaînée, elle était interdite, et maintenant elle est désormais imprimée, elle est répandue et lue, et le monde de l'époque commence à découvrir Dieu et à se réjouir en lui, à goûter à son salut. Ce qui a favorisé l'essor des entreprises missionnaires du XIXe siècle, ce sont les sociétés bibliques qui ont traduit la Bible dans quantité de langues. Comme on le voit encore là, à notre époque, 2010, cette Bible parvient à ce peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Malheureusement, les hommes peuvent connaître une sorte d'anorexie spirituelle. Ils ne veulent pas la Bible. C'est-à-dire, ils ne veulent pas la lire. Vous voyez le contraste entre l'appétit, l'enthousiasme pour les Écritures que ce peuple vit et nous qui avons cette Bible depuis des siècles dans des quantités hallucinantes, qu'ils l'avons sur notre téléphone, qu'ils l'avons dans notre table de nuit ou sur nos étagères. Et on manque de cet appétit pour la parole. Ce n'est pas qu'elle soit inaccessible. Au fond, c'est que les gens n'en veulent pas. On peut croire que la Bible est la parole de Dieu, mais ne pas la lire. Avez-vous déjà entendu des témoignages désespérés de parents d'enfants anorexiques? Ils ne savent plus que faire. Ils sont désespérés. Ils voudraient que leurs enfants mangent. Ils ont cuisiné, préparé des plats délicieux, excellents. Mais non, ils ne mangent pas. J'ai lu quelques témoignages. Une mère raconte: ma fille a été hospitalisée 7 fois à ce jour pour lui sauver la vie à chaque fois. Elle a maintenant 20 ans et elle souffre toujours d'anorexie mentale. Son trouble alimentaire a changé ma vie pour toujours. J'ai vécu des sentiments que je ne pensais pas un jour ressentir. Le sentiment d'impuissance d'abord. Puis la colère, si puissante que je me faisais peur à moi-même. Ensuite, ce fut la peine qui me collait à la peau. J'avais si mal de la voir souffrir sans pouvoir l'aider. J'essaie d'encourager la lecture de la Bible chez quelques-uns. Ils vont se reconnaître. Avec, je dois dire, plus ou moins de succès. Je sais que la vie spirituelle ne se développera pas sans un appétit pour la Bible. Mais moi, je suis incapable de donner fin à sa parole. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, dit: mon peuple est détruit, faute de connaissance, parce qu'ils ont oublié la loi. Le monde se meurt, parce qu'il ne connaît pas Dieu et ne veut pas entendre sa parole. Le peuple avait été déporté parce qu'il ne connaissait pas Dieu, parce que la parole avait été délaissée. Vous voulez un sujet de prière pour moi, pour vous-même, pour vos enfants, pour notre Église? Oh, que Dieu crée dans nos cœurs une soif et un appétit pour sa parole. Comme Jérémie en avait dit: j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. C'est Dieu qui produit cet appétit pour sa parole. Regardez ici, le verset 1, ce qui se passe est assez extraordinaire. Il est dit ici que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe. Esdras, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là, et qu'il essaye d'enseigner le peuple. Mais là, le peuple dit à Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par Dieu à Israël, et d'en faire la lecture. J'imagine Esdras aller chercher les livres de la loi en pleurant et de revenir là: Seigneur, tu réponds à ma prière. Seigneur, tu crées enfin dans leur cœur un appétit pour ta parole. et tout le peuple s'assemble. Et le peuple demande, « Oh, lis-nous la parole. » Alors, il commence à faire la lecture. La Bible dit qu'ils ont lu pendant toute la moitié de la journée. Les commentateurs disent pendant 6 heures. Imaginez la lecture. C'est pas un roman. Ils sont en train de lire les livres de Moïse, tout le Pentateuque. C'est un livre vieux de 1000 ans pour eux. Vous comprenez? Et là, ils vont écouter cette parole pendant 6 heures de temps. Vous avez remarqué, ils sont tous là. Hommes, femmes et tous ceux qui sont capables d'entendre et de comprendre les Écritures. C'est-à-dire nous tous là. Hommes, femmes, les jeunes, les ados, et tous ceux qui sont capables d'entendre. Esdras monte sur l'estrade, il ouvre le livre à la vue de tout le peuple. Tout le peuple est debout là et plus personne ne bouge. Esdras bénit Dieu pour sa parole et tout le monde dit Amen. Ils sont comme saisis. Maintenant, Dieu va nous parler. Dieu va s'adresser à nous. Et puis, ils se réjouissent. Ils vont entendre les Écritures. Mais ils se prosternent et ils adorent. On parle des Écritures, ils adorent Dieu, celui qui donne les Écritures, qui se révèle dans les Écritures. Et ils reçoivent la lecture de la Bible avec une attitude merveilleuse. Dieu va nous parler. Exactement comme ces hommes de ce peuple de Papouasie qui reçoivent cette Bible-là et qui remercient Dieu. Et merci Seigneur, on va pouvoir écouter ta parole maintenant. Êtes-vous blasé? Êtes-vous anorexique? Vous attendiez-vous à entendre Dieu, à le découvrir quand vous ouvrez sa parole? La parole de Dieu a une telle puissance que le diable mettra tout en œuvre pour que vous ne la lisiez pas, pour que vous ne la compreniez pas, pour que vous ne la mettiez pas en pratique. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les frontières de l'Afghanistan, les frontières de l'Iran et de tant d'autres pays sont fermées hermétiquement pour qu'aucune Bible ne passe. Le diable tient le pouvoir là-dessus, empêche tous ces peuples de pouvoir entrer en possession de la parole de Dieu. Grâce à Dieu, il y en a pas mal qui passent clandestinement. Et est-ce que le diable nous aurait oubliés? Ah non! Là, il ne peut plus supprimer les Bibles qui sont dans notre pays, c'est impossible, on l'a sur notre poste. Sur nos téléphones, on l'a partout. Par contre, il peut nous dissuader de la lire. Il peut nous dire demain. Non, demain tu commences. Demain. C'est-à-dire jamais. Il y a une vraie bataille pour lire la Bible. Dans le psaume 119 qu'on a lu tout à l'heure, le psalmiste prie « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il dit à plusieurs reprises « Ne me cache pas tes commandements. » Il dit encore plus souvent « Enseigne-moi tes statuts. » Il dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Incline mon cœur vers tes préceptes. Détourne mes yeux des choses vaines. » pour que je puisse les poser sur ta loi. Sois mon appui, pour que je m'occupe sans cesse de tes statuts. C'est pour dire notre incapacité et notre besoin de Dieu pour que nos cœurs soient portés vers les Écritures. On a besoin de lui. On a besoin qu'il crée en nous cet appétit. On a besoin qu'il nous enseigne. Voyons à présent la joie de comprendre les Écritures. Il ne s'agit pas de lire et d'entendre seulement, mais de ne rien comprendre à ce que l'on lit. L'idée, c'est de comprendre. Si on ne cherche pas à comprendre, on fait de la Bible comme un instrument de superstition. Voilà, ça y est, j'ai lu 3 chapitres. Qu'est-ce que c'était? j'ai rien compris. Vous savez, une des caractéristiques aussi des attaques du diable, c'est que quand les hommes entendent la Bible, le diable vient et il enlève. C'est ce que j'ai dit dans la parabole des terrains. Il enlève la semence qui a été semée. On le but. On la laisse pas pénétrer véritablement. Ça tombe juste superficiellement sur nos cœurs et ça ne les atteint pas. Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on apprenne à les connaître. Comment comprendre les Écritures? Il faut la lire. Il faut lire la Bible. Et ça demande un effort. On a parfois une certaine paresse avec les Écritures. On voudrait qu'un verset nous parle. Du premier coup. Qui nous touche instantanément. Alors on ouvre un peu la Bible au hasard. On regarde. Si ça me touche. Oh, la Bible est chouette, c'est puissant, hein. Parfait. Si ça ne me touche pas, la Bible est sans puissance. Elle n'est pas d'actualité. On distribue les calendriers de la bonne semence, vous connaissez ça. Le calendrier de la bonne semence, c'est pour les gens qui ne connaissent pas les Écritures. C'est pour les gens qui n'ont pas encore. C'est des cacahuètes pour leur donner fin des Écritures. Mais si vous nourrissez votre vie chrétienne de ça, alors vous êtes indigent. Il faut plus que ça. Il faut une lecture suivie. Ça demande un effort. Si on passe d'un verset à l'autre, sans comprendre le contexte, alors on manque le sens. Et la plupart du temps même, on va jusqu'à tordre le sens des Écritures. Parce qu'on ne comprend pas le contexte. Vous connaissez cette histoire, ce gars qui lit la Bible comme ça, il ouvre et il tombe sur le passage où c'est écrit « Et Judas alla se prendre ». Oula. Un verbe, vous êtes dangereux, ça. Et il ouvre un autre endroit. Et puis là, Jésus dit, va, et fais le même. dangereux, la Bible. On ne doit pas lire la Bible comme ça. Sinon, on lui fait dire n'importe quoi. Non, on doit lire la Bible section par section. Vous avez vu, ils ont lu, et puis ils se sont arrêtés, ils ont donné des explications, ils ont repris la lecture, voilà, ainsi de suite. On ne peut pas saisir la pensée de l'auteur si son intention, ni son intention, si on lit un verset ici, un verset par là. Vous ne regardez pas un film de cette manière, en allant chercher une scène ici et une autre là-bas, et vous ne changez pas non plus de film en cours de route. Si vous zappez tout le temps, vous n'allez rien comprendre, vous le savez. Et c'est pareil pour les Écritures. Et ça, c'est la raison pour laquelle dans notre Église, on s'efforce de prêcher la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, en tout cas section par section, pour qu'on puisse saisir le sens, pour qu'on puisse comprendre globalement ce que Dieu est en train de nous dire. Pour que le but de Dieu se dépose sur notre cœur, son intention. Il y a un autre avantage à ça, c'est que je suis obligé de soumettre au texte de Néhémie. Je ne peux pas dire ce que je veux sur le texte. C'est très important. Chacun des enseignants a des dadas, des choses dans lesquelles il excelle, et donc des choses qui reviendraient facilement là, sur son cœur. Je pourrais utiliser la Bible pour dire ce que j'ai envie, ou si j'ai trouvé qu'il y avait un problème dans l'Église, le traiter comme ça. Mais qui dirait, voilà, le pasteur il veut nous faire passer un message aujourd'hui. Mais vous ne verriez pas, Dieu m'a parlé ce matin. Au verset 8, il dit, et c'est certainement le verset clé de cette section, il dit, il lisait. distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils ont donné le sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 interprétations possibles du texte. Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Et il l'a dit de la manière qu'il voulait le dire. Vous avez remarqué, il y a 13 personnes qui accompagnent Esdras pour donner les explications des Écritures. Alors que vous entendiez Josué, Bani, Chérédien ou Jamil, vous aviez le même sens. La preuve qu'ils ont tous donné le même sens, c'est que la parole de Dieu a provoqué la même réaction chez tous à ce moment-là. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. La compréhension de la loi produit des larmes chez ceux, chez eux et chez ceux qui l'écoutent. Ils comprennent qui est Dieu et qui ils sont. Et ils mesurent la différence, le gouffre qui les sépare de Dieu. C'est comme s'ils lisaient, et puis plus ils lisent, et plus ils disent, mais on a tout raté. J'ai tout raté. Je me suis complètement fourvoyé. Et puis là, ils disent, mais j'ai perdu tellement de temps. J'ai fait tellement d'erreurs. Et puis là, ils sont dans les larmes. Ils se rendent compte qu'ils ont offensé Dieu à de nombreuses reprises. Ils pleurent parce qu'ils réalisent qu'ils ont manqué de le glorifier. Ils pleurent parce qu'ils réalisent les conséquences douloureuses de leurs égarements. Pour eux, pour leur famille, ils pleurent à cause du temps perdu. La lecture de la loi, elle doit produire une telle réaction dans nos cœurs. Les réveils spirituels, personnel commence toujours par la redécouverte de la parole, et le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu expliquée pour toucher nos cœurs, pour réveiller nos consciences et pour nous convaincre de péché. La loi, elle révèle le caractère saint de Dieu et elle dévoile notre caractère de pécheur. Dieu sait que l'homme est incapable de satisfaire la justice de Dieu. Aussi, Dieu a choisi de le sauver, non pas par l'observation de la loi, mais simplement par la foi dans sa grâce, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Le rôle de la loi, au fond, était d'amener l'homme à désespérer de lui-même, à l'amener à ses larmes qui désespèrent en disant « j'ai tout raté », pour pouvoir ensuite le conduire à placer toute sa confiance dans l'amour de Dieu et dans sa grâce. Et c'est pourquoi Néhémie, Esdras et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. C'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Ne pleurez plus. Les Juifs, le premier jour de ce mois, de Tisri, c'était le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le 1er janvier pour nous, quoi. C'était le début de l'année, c'est le recommencement, c'était une occasion de partage. Hein, ils disent, non, il ne faut pas pleurer, allez manger les viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. L'idée maintenant, c'est de se réjouir. C'est un jour pour se réjouir. Les paroles qu'ils ont entendues leur rappelaient que si l'Éternel punissait le péché, il est aussi un Dieu qui fait grâce aux pécheurs et qui pardonne. Et c'est pourquoi nos larmes de tristesse en raison de nos fautes,
de nos regrets, de notre incapacité à écouter et à comprendre la loi peuvent être changées en larmes de joie. Parce que Dieu comble lui-même le fossé qui nous sépare du Dieu saint. La Bible n'est pas avant tout un recueil de règles qu'il nous faudrait suivre. Ce n'est pas des règles qui t'expliquent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. La Bible, elle contient bien entendu des règles. Et ces règles sont là pour nous montrer comment vivre le mieux possible. Mais la Bible ne parle pas que de nous. Mais elle parle ou de ce que je devrais faire. Mais elle nous parle avant tout de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. La Bible, c'est avant tout une bonne nouvelle. Ils ont compris qu'ils pouvaient prendre un nouveau départ ce jour-là. Ils ont compris que les paroles qu'on leur avait expliquées, ils se sont réjouis profondément. La compréhension des Écritures, elle touche nos cœurs et puis elle nous réjouit profondément. Est-ce que vous avez compris ça? Ou est-ce que la Bible, c'est un peu comme le code pénal? Ça vous dit tout ce que vous avez raté, puis ça vous laisse avec votre tristesse. Ah non, la Bible est là pour révéler que Dieu pardonne, que la justice de Dieu est satisfaite par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est notre troisième point, la joie de mettre les Écritures en pratique. On n'étudie pas la Bible pour simplement apprendre comment Néhémie a construit les murailles de Jérusalem. Même s'il peut y avoir un intérêt historique à ça. La Bible n'est pas non plus un manuel de maçonnerie. Comment reconstruire des murailles? Ça n'est pas non plus un guide pour coacher une équipe. Même si, bien entendu, on peut apprendre de Néhémie. Mais le véritable héros de l'histoire, c'est pas Néhémie. Le véritable héros, c'est Dieu. La Bible est le livre qui nous révèle principalement qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu, il est toujours le même. Et ce qu'il était du temps de Néhémie, il l'est aujourd'hui pour moi. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu saint, il est le Dieu qui pardonne, il est le Dieu qui fait grâce. Sa parole m'instruit pour que je le connaisse et pour que j'apprenne à vivre d'une manière qui le glorifie. Maintenant, si j'apprends, en lisant Néhémie, que Dieu répond à la prière, mais que je ne prie pas, que Dieu défend la cause de ses enfants, mais que je ne lui fais pas confiance, si je lis que Dieu pardonne nos péchés, mais que je vis toujours dans la culpabilité, alors ma lecture se trouve être inutile, stérile. L'objectif de la lecture, c'est de placer notre confiance en Dieu, de la pratiquer. Et c'est pourquoi dans l'Église, quand on s'efforce d'avoir des rencontres en semaine, dans les cellules, dans les groupes de maison, il faut absolument que vous rejoigniez un groupe si jamais vous n'en avez pas encore. Pour pouvoir mettre en pratique les Écritures, on se réunit et on réfléchit. Comment est-ce qu'on va pratiquer ça dans notre vie? Comment est-ce que ça peut avoir un impact dans mon cœur aujourd'hui? Et c'est une de nos valeurs racines dans notre Église. On veut étudier la Bible pour la mettre en pratique. Ça n'a pas de sens de ne pas vouloir la mettre en pratique. Le lendemain de ce jour, le deuxième jour du mois de Tisri, ils se sont réunis à nouveau. Et c'est seulement là un groupe restreint qui se réunit. Ce sont ceux qui ont la responsabilité d'enseigner les autres. Il y a les chefs de famille, il y a les sacrificateurs et les lévites. Les chefs de famille sont responsables d'enseigner leur famille. Et les scribes, Esdras, ils ont la charge, ou les pasteurs, les anciens, ils ont une charge envers la communauté. Esdras, le scribe, lui, il lit et il explique les Écritures. Et au verset 14, dans notre passage, ces responsables, en lisant les Écritures, ils trouvent eux-mêmes que la loi demandait d'observer une fête particulière le septième mois. Et cette loi, cette fête, c'était la fête des tabernacles, des cabanes, ou soukot en hébreu, en souvenir de la délivrance. C'est une fête qui célèbre la délivrance de l'Égypte. Et puis la protection de Dieu dans le désert après la sortie d'Égypte. C'est une fête qui a lieu au moment des récoltes. Alors ils célèbrent aussi toute la provision de Dieu dans nos vies. Et le peuple célébrait cela et puis lui rendait grâce. C'est une fête de joie. L'obligation, c'était, il fallait se réjouir devant Dieu. Alors le peuple célèbre cette fête en l'honneur de l'Éternel. Et pendant 7 jours, toute la journée, ils vont lire la loi, ils vont lire la Bible, et puis ils vont manger ensemble, ils vont se réjouir, ils vont pouvoir se remémorer tout ce que Dieu est pour eux. Imaginez, ils sont rentrés de déportation, et leur pays avait été rasé. Ils étaient jusque-là dans l'opprobre, au comble du malheur. Mais aujourd'hui, après 2 mois, les voilà à nouveau unis. Ils partagent leur nourriture. Ils ont restauré les murailles de la ville. Ils comprennent les Écritures. Ils savent que c'est Dieu qui est avec eux. Ils connaissent une joie intense. C'est comme s'ils revivaient. Ils sont dans la même pensée que le peuple quand ils ont été sortis d'Égypte, quand ils étaient conduits par la colonne de nuée, quand Dieu pourvoyait à leurs besoins en nourriture d'une manière miraculeuse par la manne. Vous lisez ça dans le livre de l'Exode, par des cailles qui viennent de je ne sais où, et puis par l'eau qui jaillit du rocher, leurs vêtements et leurs chaussures ne s'usent pas, ils sont gardés, et eux, ils sont en train de revenir là, ils disent, mais ça y est, notre muraille est reconstruite, notre ville est reconstruite. Et puis Dieu nous parle à nouveau, il nous guide à nouveau, il pardonne nos fautes, il nous sort de l'esclavage de la Syrie et de Babylone. Alors ils veulent lui rendre grâce, ils veulent le remercier et ils font la fête. Voyez-vous, il est dit aussi au verset 17, il y eut de très grandes réjouissances. La méga teuf. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons heureux, qu'on prenne plaisir à lire sa parole. Ils ont repassé sur leur cœur comment Dieu a créé le monde. La promesse qu'il a faite à Abraham de le bénir. Lui, c'était un idolâtre et puis Dieu l'a choisi, nous aussi. Et puis, comment il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage, comment il a parlé à Moïse, comment il les a conduits dans ce beau pays, comment il leur a porté constamment secours, comment il les a aimés lorsqu'ils étaient encore désobéissants, lorsqu'ils fuyaient même loin de lui. Et puis, ils sont dans la joie, dans la reconnaissance. La Bible nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous, et c'est ce qui produit dans nos cœurs de la joie, de la reconnaissance et de l'obéissance. Les Américains ont fêté cette semaine, jeudi soir, Thanksgiving. Ça, c'est la fête qui commémore pour eux la provision divine. En 1620, une centaine de migrants anglais débarquent dans la baie de Plymouth, au nord de ce qui deviendra les États-Unis, nord-est des États-Unis. Mais le premier jour, le premier hiver est si terrible que les colons vont périr en masse, certains de faim, certains de froid, d'autres du scorbut. Et les survivants ne doivent leur salut qu'à l'intervention de 2 Indiens d'une tribu, les Wampanoag, qui leur apprirent à pêcher, à chasser et à cultiver le maïs. Et donc c'est en remerciement de cette aide que les colons ont organisé la première fête d'action de grâce, Thanksgiving, en invitant le chef et 90 hommes à partager un repas. Voyez-vous, la Bible, elle nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions tristes. Nous vivions dans la honte du péché. Nous vivions dans la crainte de la mort. Sans espérance. Mais Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, à qui nous devons notre salut. C'est lui qui nous a aimés et qui a pourvu pour nous, pour le pardon de nos fautes, pour qu'on puisse connaître la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Par la foi, nous recevons son pardon et la vie éternelle. Si vous avez entendu cette bonne nouvelle, si vous l'avez comprise, pratiquez-la en offrant votre reconnaissance à Dieu par votre joie et votre désir de le suivre. Je voudrais juste vous laisser avec 2-3 conseils. Peut-être vous souffrez aujourd'hui d'anorexie biblique. Vous avez perdu l'appétit pour les choses de Dieu. Perdu l'appétit pour lire la Bible, c'est quelque chose que... Vous savez que c'est bon. Normalement, ça doit être bon pour moi. Mais les jours passent, les semaines, les mois, les années peut-être. Et puis vous ne la lisez pas. Peut-être vous avez peur de ce que vous allez y trouver. Peut-être il y aura peut-être quelques larmes qui vont couler de vos yeux. Mais gardez en tête, Dieu a écrit ce livre pour mon bonheur, pour que je me rappelle tout ce qu'il a accompli pour moi, combien il m'a aimé dans la personne de Jésus-Christ, pour qu'on puisse faire la fête pour l'éternité. Alors lisez la Bible avec le désir de découvrir quel Dieu merveilleux nous a créés. Notez non pas tout ce que vous n'avez pas fait, tout ce que vous n'avez pas été capable d'accomplir, mais notez tout ce que Dieu a accompli pour vous. Notez tout ce qu'il est. Lisez la Bible pour entendre l'histoire de son amour pour vous. Si vous avez du mal, allez trouver quelqu'un, certainement, il a aussi du mal. Et puis, dites-lui, tu voudrais qu'on s'encourage à lire ensemble? Juste, on essaye, on s'efforce, puis on rate, on reprend la semaine d'après, puis le jour d'après, et puis on recommence. Puis on essaye ensemble de découvrir qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous, et puis de lui dire notre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre Église, qu'il nous donne un appétit vraiment pour sa parole. Prions Dieu. Seigneur, nous te louons. Te louons comme ce pasteur en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le trésor que tu nous as laissé. Parce que tu as choisi notre peuple pour donner depuis des siècles la parole dans notre propre langue pour qu'on puisse la comprendre, pour qu'on puisse la lire, pour qu'on puisse se réjouir de tout ce que tu es et de tout ce que tu as fait pour nous. Et on te demande, Seigneur, pardon parce que on a si peu d'intérêt pour cette parole, pour toi. Et on te prie pour que tu renouvelles, Seigneur, une passion pour toi, une passion pour ta parole, que tu nous aides à te chercher, à te découvrir. Et Seigneur, on te prie pour que, ensemble, comme ce peuple, sur cette grande place, on puisse être les uns à côté des autres pour se fortifier dans cette résolution de la lire, de la méditer, de la comprendre et de la pratiquer. Viens-nous en aide toutes les fois où nous allons échouer. Relève-nous. Comme le psalmiste, on te demande de nous détourner, de tourner nos yeux des choses vaines, de les amener sur ta parole, de nous enseigner, de nous aider à la comprendre, de nous donner de l'intelligence, Seigneur, pour te découvrir. Donne-nous de la passion, Seigneur, pour l'aimer, pour la pratiquer. Donne-nous le courage d'aller voir notre frère, notre sœur, pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres à vivre ensemble la lecture de la parole, la découverte tout à nouveau de ta parole. Que tu bénisses, Seigneur, notre Église, que tu bénisses notre peuple qui a cette parole et qui, aujourd'hui encore, ne la lit pas. On te prie pour que cette parole puisse toucher et bouleverser encore de nombreuses vies, comme c'est le cas partout dans ce monde, Seigneur, notre Dieu. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen.